Rencontre avec aujourd'hui avec Christian Blanc. Donc, merci Christian Blanc d'avoir répondu à notre invitation.
Bonsoir.
Voilà. Alors, on va revenir sur votre parcours, hein, votre parcours qui est très 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 éclectique. Alors, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Vous êtes né à Talence et vous avez plusieurs engagements associatifs, politiques et professionnels au cours du, enfin, au début de votre carrière. Vous êtes président de la Mutuelle nationale des étudiants de France. Et puis, bon, avec une petite coupure, hein, vous devenez animateur de la base de loisirs de Saint-Quentin-Ville. Pourquoi une petite coupure? Vous pouvez nous le dire tout de suite, peut-être?
Oui, dans le temps, effectivement. Enfin, c'est bien plus tard que je me suis occupé d'aménagement du territoire.
D'accord. Vous faites partie de l'équipe de rénovation de la vie politique autour de Michel Rocard. Alors, vous n'êtes ni énarque, ni polytechnicien, mais vous avez un itinéraire fait de responsabilités très diversifiées. Vous êtes d'abord à la Commission des communautés européennes à Bruxelles, directeur de cabinet d'Edgar Pisani, commissaire européen. Puis vous devenez commissaire de la République des Hautes-Pyrénées, secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie et préfet de Seine-et-Marne. Vous êtes responsable de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie. La mission est d'ailleurs un succès qui est conclu par la signature des accords de Matignon en 1988. Puis vous devenez PDG de l'entreprise publique RATP. Vous démissionnez dans l'impossibilité d'obtenir le soutien du ministre concerné pour établir un service minimum pendant les grèves. Vous devenez PDG d'Air France. Vous animez le redressement spectaculaire de l'entreprise en crise. Mais vous démissionnez en raison d'un désaccord stratégique avec le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, sur le rythme de sa modernisation. Puis vous devenez président de deux start-up, Skygate en Hollande, Harmony Biotechnologie à Palo Alto et à Pékin. Vous devenez président de Merrill Lynch France de fin 2000 à mars 2002, puis administrateur d'Action contre la faim, administrateur de la chancellerie des universités de Paris. Vous êtes le fondateur de l'association citoyenne L'Ami Public et actuellement vous êtes président du mouvement politique Énergie démocrate et député des Yvelines depuis le 15 décembre 2002. Mais vous avez d'autres actions. Vous présidez la commission du plan État, administration et services publics pour l'an 2000. Vous êtes coordinateur et auteur du rapport pour un État stratège garant de l'intérêt général. Et vous présidez le comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur. Qu'est-ce que c'est le tour extérieur, Christian Blanc?
Les inspecteurs des finances sont en général pris parmi les premiers à la sortie de l'ENA et il existe un concours pour des hauts fonctionnaires, essentiellement d'ailleurs du ministère de l'économie et des finances, qui peuvent devenir inspecteurs des finances au tour extérieur. Voilà, c'est intéressant parce que ça permet effectivement de faire passer enfin des hommes ou des femmes qui n'ont pas eu la chance de faire l'ENA à des responsabilités qui sont importantes dans l'État.
Alors on le voit nettement, c'est un parcours très, très éclectique, hein, comme je l'ai dit en préambule. Mais quand on fait tout ça, Christian Blanc, a-t-on encore le temps de fumer un cigare? Alors, on attend de vous que vous reveniez sur les étapes de votre carrière qui vous ont le plus marqué. Alors d'abord, avez-vous le temps de fumer un cigare?
Oui, d'ailleurs, c'est un luxe qui est compatible avec le travail. Alors, de nos jours, effectivement, c'est plus ou moins toléré, donc il faut faire un peu plus attention, mais effectivement, c'est mon grand plaisir.
Alors, Christian Blanc, on le voit, hein, vous êtes avant tout un grand commis de l'État, avant d'être un politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter devant le suffrage universel, pardon, et avez-vous l'intention, après cette première expérience, de continuer dans cette voie?
Eh bien, toute ma vie, qui vous le voyez, a été une vie forte. J'ai eu la chance d'avoir une vie magnifique dans l'action, enfin, très très fortement centrée sur les hommes, les femmes, enfin ce que l'on appelle improprement le terrain dans le jargon politique. Et j'ai pris conscience, chemin faisant, que notre pays n'abordait pas le XXIe siècle comme il le devrait et que nous risquons de transmettre à nos enfants et nos petits-enfants une France qui n'est pas celle que nos parents nous ont léguée après la résistance et les efforts de la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette expérience, j'ai souhaité en faire quelque chose pour le bien public et Comme on en parlera peut-être, je trouve la classe politique très, très insuffisante,
On va en parler.
très inexpérimentée par rapport au monde d'aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait peut-être utile d'essayer de faire quelque chose, et c'est comme ça que je me suis présenté dans les Yvelines et que j'ai été élu député.
Alors, cette expérience, vous a, enfin, le fait de la fonction, est-ce que ça vous surprend? Ou vous
Non,
êtes surpris agréablement ou désagréablement?
je ne suis pas surpris. Bon, d'abord, la situation de la France, j'ai été amené à la connaître progressivement au fil de ma vie. J'ai été confronté à beaucoup des contradictions de la décision publique. Par ailleurs, je dirais la vie des hommes politiques, j'ai pu l'apprécier lorsque j'étais préfet. J'en ai connu beaucoup. Et je savais que l'incantation en politique est très forte et le rapport à l'action un peu plus faible. Et je dois dire que ce qui me pose le plus de difficultés aujourd'hui, c'est effectivement le sentiment que le monde politique n'est pas en phase avec la société, est décalé par rapport à la société et ne s'attaque pas aux fondamentaux. Qui font l'histoire, qu'il s'agisse du développement économique du pays, qui n'a plus rien à voir avec celui que nous avons connu, ou qu'il s'agisse simplement de l'ouverture sur le monde. Nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert et nous avons tendance beaucoup trop, tout au moins au plan politique, à nous renfermer sur nous-mêmes. Ce qui n'est pas un avantage pour le pays.
Bien. Alors, venons-en à l'affaire qui a fait tant de bruit dans le Landerneau récemment. Vous avez écrit une chronique dans le journal Le Monde qui se concluait par ceci: Partez, monsieur le président. Vous demandez purement et simplement au président de la République de donner sa démission. Qu'est-ce qui vous a pris, Christian Blanc, là? C'est dans la continuité de ce que vous venez de dire, très certainement.
Ce à quoi on assiste depuis une vingtaine d'années au plan politique, c'est à un éloignement progressif des Français par rapport à la politique. Et avec des avertissements nombreux qui ont été donnés, le phénomène vert, à une certaine époque, a été un premier signal expédié par l'opinion. La trajectoire étrange de Tapie, à une certaine époque aussi. Et puis, plus largement, on s'aperçoit qu'à l'occasion des grands scrutins nationaux, les Français ont voté contre et non pas pour. Et je dirais que 2002 a été, de ce point de vue, le moment le plus pathétique, parce que on sentait bien la montée du Front national depuis une dizaine d'années. Mais le fait de retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle l'extrémisme de droite aurait dû entraîner la classe politique et au premier chef, le président de la République élu, à comprendre qu'il fallait s'attaquer aux problèmes structurels de la France, à sa modernisation. J'ai pensé en 2002, comme beaucoup, que le président Chirac avait compris et qu'il allait faire ce qu'il convenait de faire, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Enfin, je n'imagine pas qu'il ne le sache pas. Et j'ai constaté avec progressivement de plus en plus d'inquiétude que nous restions sur les trajectoires anciennes. L'engagement du président sur le oui au référendum, pour des raisons que je partageais. Mais cet engagement, suivi d'un insuccès, enfin du non, devait, selon moi, mettre un terme à cette fin de cycle, car sur un sujet aussi fondamental, et dans les institutions de la Ve République, et je dirais dans la pratique qui a été celle du général de Gaulle, le fait que le président décide de rester président sur un rejet aussi massif du oui qu'il préconisait, m'a laissé très, 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 très perplexe. Depuis, j'observe ce qui se passe en tant que député. Je participe chaque jour à la vie nationale. Je vois l'écart entre les effets d'annonce et la réalité, et encore des effets d'annonce sur ce qui n'est pas essentiel. Avec un regard qui est le plus souvent tourné vers le passé et non pas vers l'avenir. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, et après les vœux du 31 décembre dernier, où le président n'a même pas évoqué ce problème terrible pour la France qui est celui de la dette, j'en suis arrivé à la conclusion que les 16 mois à venir étaient des mois perdus et que le service qu'il pouvait rendre à la France, c'était en effet de démissionner, comme l'avait fait Gerhard Schröder il n'y a pas si longtemps que cela, pour permettre une nouvelle donne. Bon, donc j'ai écrit, j'ai eu d'ailleurs des milliers de messages me disant que j'avais dit tout haut ce que de très nombreux Français pensaient. Donc,
c'est courageux.
Je pense que si on est un homme libre, d'abord, si on est un citoyen, surtout, et qui plus est un député, c'est-à-dire un représentant du peuple, on se doit de dire ce que l'on pense et surtout de le justifier, car cette adresse au président de la République était étayée. C'était d'ailleurs très, très correct comme démarche, me semble-t-il. Et respectueux, mais je n'en attendais pas des effets immédiats, et d'ailleurs j'ai constaté qu'en effet il n'y en avait pas, je pense qu'il fallait prendre date, car chacun pourra vérifier dans les mois qui viennent que l'année et demie qui nous sépare de l'élection présidentielle sont des mois perdus pour la France.
Bien. Et est-ce que vous avez eu des réactions de la classe politique, justement, à ce sujet?
Eh bien...
Et est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu isolé? Vous avez consulté des collègues à vous, de la classe politique?
Avant, non.
Non.
Non. C'est une démarche personnelle.
D'accord.
Après, ce que j'ai constaté, c'est que personne ne m'a dit que ce que j'avais précisé dans cette adresse était inexact ou faux. Mais chacun, pour des raisons qui lui appartiennent, n'estimait pas que le moment était venu. Bon. De poser ce type de questions. La gauche n'est pas prête. Mm-hmm. Elle n'a pas de programme, ce qui est quand même extraordinaire à 18 mois d'une échéance aussi importante dans le moment. Nous sommes à un moment clé de l'histoire de notre pays. Si dans les 5 ans qui viennent, nous ne parvenons pas à redresser complètement la situation, ce profil, une dérive du type Argentine, c'est aussi grave que ça. Je peux en parler si vous le souhaitez avec vous dans un moment. Ils ne sont pas prêts. Bon. À droite, les querelles de personnes, pour l'instant, semblent l'emporter sur toute autre considération. Qui sera le candidat de la droite? Et là, je dirais que nombreux sont ceux qui, en aparté, sont venus me dire combien j'avais raison, mais personne ne s'exprimera, ne s'est exprimé, ne s'exprimera à ce sujet. Et par ailleurs, ben, il y a M. Le Pen avec son comparse M. Villiers qui sont tapis dans l'ombre, enfin c'est surtout vrai pour M. Le Pen, et qui attend tranquillement que la situation se détériore encore davantage pour pouvoir apparaître. Donc, quelle est ma crainte derrière tout ça? C'est que s'il n'y a pas un ressaisissement assez rapide, bien nous risquons d'avoir un deuxième tour de la présidentielle qui serait un drame total pour la démocratie, c'est-à-dire un candidat d'extrême droite et peut-être un candidat d'extrême gauche. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai pris date pour que quand même on n'attende pas d'être complètement dans le mur pour pouvoir se poser certaines questions. Bon, bah, écoutez, maintenant on verra. Mais en ce qui me concerne, cette année 2006 va être une année de combat où je vais essayer de dire les choses telles qu'elles sont et j'attendrai qu'on me dise que ce que je dis est faux et je serai prêt à en débattre. Et par ailleurs, je vais faire des propositions au pays. Je commence maintenant, j'ai un livre sur la croissance qui vient de sortir. La croissance est au cœur du problème. Aujourd'hui, nous ne faisons plus de croissance. Bon. Et dans les mois à venir, je prendrai d'autres initiatives pour expliquer aux Français quelle est la situation et surtout comment il est possible, avec les potentiels dont on dispose, de reprendre la main, d'aller de l'avant et de repartir. Alors ça paraît peut-être un peu gigantesque comme ambition, mais de toute façon, je ne sais pas faire autrement. J'espère que nous serons des milliers ou des millions à penser de la même façon, mais de toute façon, ce qui me paraît important, c'est que je le dise.
Vous avez eu des réactions de l'Élysée ou pas ?
Non, aucune.
Aucune ?
Bah, écoutez, je verrais mal les communicants de l'Élysée engager un débat sur le départ prématuré président de la République.
Bien, alors vous avez parlé de votre bouquin, de la sortie de votre bouquin qui est sorti, je crois, jeudi dernier, et qui s'appelle « La croissance ou le chaos ». C'est trégolien comme titre, ça.
Et je pense que c'est simplement à la dimension des problèmes qui se posent aujourd'hui. Et votre référence au gaullisme est bonne. Je pense que nous n'avons pas le général de Gaulle, mais nous avons une situation qui ressemble étrangement à celle que nous avons connue en 56-58, c'est-à-dire un pays à la dérive qui nécessite en effet de reprendre des fondamentaux très, très, très nets, très précis sur le redressement de la France.
Bien, alors certains de vos amis prétendent qu'il existe une méthode blanc. Une méthode blanc, cette expression, la méthode blanc, entendrait désigner la façon dont vous avez géré les difficiles conflits de la Nouvelle-Calédonie, d'Air France, etc., en associant tous les acteurs au dépassement de ce qui les opposait. Donc une véritable méthodologie de l'action que trois mots pourraient caractériser: écoute, confiance et courage. Alors d'abord, êtes-vous d'accord sur la façon dont vos amis analysent cette méthode? Et in fine, pourquoi?
Alors, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. Ça m'a toujours beaucoup amusé car je n'ai jamais été dépositaire d'une quelconque méthode. Et pour sourire un instant, j'ai appris qu'il y avait eu des cours de 4 heures ou 8 heures à HEC ou à l'ESSEC, enfin dans quelques écoles de haut niveau, où l'on exposait la méthode blanc. Et je dois vous dire que je n'ai pas eu la curiosité de me procurer ces cours parce que je pense que j'aurais appris des choses extrêmement intelligentes sur ce qu'était ma méthode et que je n'ai jamais moi-même aperçu. Non, je crois que c'est une attitude de vie qui consiste à essayer de comprendre derrière l'apparence des positions ou des mots la réalité. Je vais vous donner un exemple. En Nouvelle-Calédonie, s'affrontaient, et on était arrivé au stade de la guerre civile, des Kanaks qui étaient indépendantistes et des Caldoches qui étaient loyalistes. Bon, alors, Loyaliste, ça voulait dire quoi? Ça veut dire rester dans la République française et continuer à bénéficier des privilèges que l'appartenance à la France et les subventions considérables accordées à ces territoires permettaient d'avoir. Bon, après tout respectable, mais enfin, il faut décoder. Et puis les indépendantistes. Alors les indépendantistes, je me souviens de discussion avec Tjibaou, discussion en négociation, où à un moment, je lui ai dit, mais de toute façon, vous ne, l'indépendance telle que vous la décrivez, vous ne l'aurez pas. Vous ne pourrez pas l'avoir par les armes. Et au fond, je ne suis pas certain que vous la souhaitez, car l'indépendance, c'est pour vous le Vanuatu, c'est-à-dire en 10 ou 15 ans la misère. Donc, je pense que derrière la question de l'indépendance, il y a quelque chose de beaucoup plus important pour vous, qui est le problème de la reconnaissance de votre identité. Et si vous le voulez bien, nous allons discuter, négocier sur la reconnaissance de votre identité. Et cet homme qui était, je dirais, dans la tradition des Gandhi, c'est un homme d'une très très grande intelligence et d'une très très grande culture, a pris le temps de réfléchir et m'a dit « Eh bien, essayons ». Et c'est comme ça que s'est engagée la négociation et qu'a pris fin ce conflit, enfin difficulté qui était devenue une impossibilité de coexistence et qui menait à la guerre civile. Voilà, donc je crois que effectivement il faut d'abord comprendre la réalité des choses. Bon. Je vais vous donner un exemple tout à fait différent. Bon. J'ai mis depuis 18 mois beaucoup de temps dans un maquis de statistiques à déceler le problème de la croissance française depuis 20 ans pour découvrir que depuis 20 ans, nous n'avions fait que 1,9 points de croissance en moyenne.
En 20 ans.
En 20 ans, d'accord. Par an. Et que même depuis 5 ans, nous ne faisions plus que 1,5 de croissance. Bon. Aucun homme politique, et je dirais même aucun journaliste économique, n'avait mis en évidence quelque chose qui est très très simple et qui explique pourquoi la perte de compétitivité et donc l'appauvrissement de la France était constant depuis 20 ans et s'accélère aujourd'hui d'ailleurs. Et la raison de notre endettement, elle est là. C'est que les gouvernements successifs de gauche et de droite ont établi des budgets de l'État chaque année, votés par le Parlement, sur des hypothèses moyennes de 2,5 points de croissance. Et donc, ça signifie que depuis très longtemps, à partir du 15 octobre, pour financer les frais généraux de la Maison France, on s'endette. Et cette chose tout à fait évidente, elle était masquée par des expertises diverses, par des discours divers, par enfin, beaucoup de choses, par une grande fumée. Mais voilà où était la réalité. Il m'a fallu du temps pour arriver à reconstituer une chose aussi simple et aussi explicative de la réalité. Bon. Alors après, effectivement, tout mon souci a été de savoir pourquoi certains faisaient 3%, 4% de croissance dans les pays développés. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de très simple. Là aussi, je suis allé voir comment ils faisaient. Qu'est-ce qui s'était passé? Et j'ai découvert quelque chose, et j'ai été le premier à expliquer ça, je n'aurais pas dû être le premier. Je veux dire, les économistes, les chambres d'agriculture, d'ailleurs les gouvernements, les ministres de l'économie auraient dû découvrir ceci. Bon, il se trouve que depuis le début des années 90, dans nos pays développés, les moteurs de l'économie avaient changé. Ce n'étaient plus les grandes entreprises, les Ford, les Chrysler, les Renault, enfin toutes ces très grandes entreprises, je cite de l'automobile, mais c'est, on pourrait parler d'autres secteurs, mais c'était des plateformes technologiques qui permettaient aux universités, aux chercheurs et aux entrepreneurs de travailler ensemble, en fusion, sur des projets donnés.
Et, d'où votre fameux rapport sur les pôles de compétitivité que vous avez remis à Jean-Pierre Raffarin.
Voilà. J'ai expliqué qu'effectivement, nous étions maintenant dans des économies de l'innovation, qu'il y avait ceux qui se mettaient en position d'être performants dans ce nouveau type d'économie, et puis ceux qui ne le faisaient pas. Et que concernant la France, c'était assez dramatique que l'on n'ait pas compris depuis maintenant 15 ans ce qui se passait, avec une situation d'appauvrissement collectif progressif, car nous avions tous les potentiels. Car en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse d'un pays ou d'une région, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le minerai, c'est la matière grise. Et il se trouve que pour des raisons historiques, la France est un pays où il y a beaucoup de matière grise. Et comment faire en sorte que, à la fois, nos écoles, nos grandes écoles, soient réorientées? Comment faire en sorte que les universités soient réhabilitées? Dans les 100 premières universités au monde, il n'y a que 3 universités françaises qui sont identifiées, et encore à partir de la 65e. Bon, donc...
C'est peu.
Très peu. C'est-à-dire autant que la Suisse ou la Suède. Bon. La Grande-Bretagne, de ce point de vue, est beaucoup mieux placée, et avec une université dans les 10 premières au monde. Vous voyez. Donc, tout ça, je me souviens, quand j'ai raconté ça, ça a été un coup. Un coup au cœur. Bon, les présidents d'université ont commencé par dire mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Puis ils ont commencé à chercher. Ils ont dit mais si, c'est vrai. Bon, j'ai osé dire même que Polytechnique, la grande école française, celle qui permet de sortir les plus brillants d'entre nous, etc., 253e au même classement. Bon. Les polytechniciens ont été pendant quelque temps extraordinairement mécontents, ils ne le savaient pas eux-mêmes, mais que je puisse dire cela. Bon. Et eux aussi ont vérifié, et j'ai beaucoup de copains qui sont des polytechniciens, des coups de fil me disant, écoute Christian, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une raison pour le dire. Et je dis si, parce que c'est en disant les choses que l'on peut devenir beaucoup plus performant. Bon. Être lucide, c'est le début de la performance. Voilà. Donc, alors, vous me disiez, écouter, comprendre, etc. Essayez d'identifier ce qui est réellement. Bon. Et puis ensuite, effectivement, il faut transformer cela. Il faut passer à l'action. Mais vous ne pouvez passer à l'action que lorsque vous connaissez très précisément le diagnostic. C'est comme si on demandait à un chirurgien d'opérer sans radio, sans scanner, sans rien du tout. Eh bien, en politique, c'est un peu ce que l'on fait depuis toujours, avec les résultats que l'on voit aujourd'hui.
Alors, on disait tout à l'heure que vous êtes un homme libre. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes un homme libre. D'où vous vient cette lucidité en matière d'économie? Est-ce que vous avez un maître? Est-ce que vous avez un maître à penser en la matière?
Alors, écoutez, non, vous savez, je...
Parce que ça ne s'apprend pas, il faut en être convaincu à la base. Il n'y a pas d'école. Il y a des écoles d'économie, puisque vous êtes diplômé de l'Institut économique de Bordeaux.
Oui, mais ce n'est pas là que vous apprenez grand-chose, ouais. Si vous voulez. Vous apprenez à raisonner. C'est comme les études de droit, c'est comme, enfin, c'est comme la plupart des études normatives. Bon. Donc c'est déjà formidable. Bon. Mais ensuite, je crois beaucoup à la vie dès l'instant où vous regardez effectivement les choses. C'est-à-dire que vous faites passer votre œil et votre cœur un peu avant votre cerveau. Hein. Et peut-être que, enfin, j'essaie de réfléchir en vous parlant, parce que c'est pour le moment une des premières fois qu'on me pose cette question. Non, je n'ai pas de maître à penser, sauf que quand j'étais gamin, j'ai été très intéressé par les études de Rostand, ou sur la biologie, et plus largement encore, je dirais que j'avais été frappé par le fait que l'explosion de la science en France à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle était le fruit d'une méthode qui était la méthode inductive. Et par la suite, c'est la méthode déductive des mathématiques qui s'est imposée. Mais dans la méthode inductive, on se contentait d'observer les faits et on essayait de voir s'il y avait une corrélation entre eux. Et je pense que garder cette méthode à l'esprit, spontanément ou de façon plus organisée, est probablement à l'origine de bien des apprentissages.
Bien, si vous le voulez bien, Christian Blanc, on va adopter une pause musicale et puis on reprend la discussion tout de suite après. Bien, vous êtes toujours à l'écoute de RVE et comme vous avez raison, alors je suis toujours en compagnie de Christian Blanc. Alors, Christian Blanc, on va parler de votre position politique actuellement. Vous êtes apparenté UDF. Mais vous n'appartenez à aucun parti. Comme on disait tout à l'heure, vous êtes libre. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette liberté? Parce que vous ne devez pas être très, très nombreux dans le gotha politique à pouvoir revendiquer une telle liberté.
Bah écoutez, d'abord, c'est extraordinaire parce que ça permet de ne pas utiliser la langue de bois des appareils politiques. Et ça permet sur chacun des votes à l'Assemblée d'avoir mon libre arbitre. Bon, alors ça a quelques inconvénients, bien sûr. C'est que on n'a pas la capacité de relais des organisations politiques, en particulier en direction des médias, et donc pour parler aux Français comme tel ou tel responsable de parti, enfin, peut le faire. Bon. C'est pas un choix de ma part. C'est simplement un état, une façon d'être. Hein. Je ne peux dire que ce que je crois. Alors, je ne sais pas si toute vérité est bonne à dire, mais personnellement, je crois que c'est ma façon d'être utile. Alors, je suis effectivement apparenté au groupe UDF. C'est un groupe centriste qui admet la liberté de vote et où il y a dans l'ensemble des députés, c'est un petit groupe, qui sont ouverts et sympathiques. Bon. Et nous avons entre nous un point de jonction qui est réel et qui est la position par rapport à l'Europe. Nous sommes européens et nous défendons l'idée que l'Europe a besoin d'une France forte pour pouvoir se réaliser. Bon. Et par ailleurs, nous pensons tous qu'il faut définir aujourd'hui de façon très 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 nette les frontières de l'Europe, ce qui nous amène ensemble à considérer que l'élargissement à la Turquie par exemple, est quelque chose qui ne peut pas être envisagé aujourd'hui, qui le sera peut-être dans 30 ans, 50 ans, que sais-je, mais certainement pas aujourd'hui. Bon. Pour le reste, je ne suis pas certain que nous soyons d'accord sur quoi que ce soit. Nous n'en débattons d'ailleurs pas très souvent au sein de ce groupe. C'est au sein de l'UDF que les uns et les autres enfin débattent d'autres questions.
Vous vous sentez bien dans ce milieu politique ? Allez, je précise ma pensée. Quand on a été comme vous, quelqu'un d'assimilé à un énorme capitaine d'industrie, malgré que c'était toujours des entreprises d'État, vous vous ennuyez pas dans ce milieu ?
Oui. Alors, entreprise d'État, tout d'abord, enfin, Air France avait un actionnaire majoritaire qui était l'État, enfin fonctionnait comme une entreprise privée du secteur concurrentiel le plus sauvage. Et par ailleurs, mon passage chez Merrill Lynch m'a appris enfin toutes les arcanes, qui sont pas toutes d'ailleurs remarquable du capitalisme international.
Oui, rappelons que Merrill Lynch, c'est une banque d'affaires, une des plus grosses banques d'affaires au monde.
C'est ça, oui. Hein, oui. Voilà. Donc, je suis très, très respectueux de la fonction politique et c'est pour ça que je souhaite la réhabiliter. La politique, c'est quand même la conduite. Le pilotage, je dirais, des services publics, de la représentation extérieure et de l'accompagnement économique. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux. Et selon que l'on a ou pas des gouvernements qui ont compris la modernité ou qui ne l'ont pas compris, ça change beaucoup de choses pour chacun des citoyens et pour tous les entrepreneurs. Donc je pense que c'est une fonction sérieuse. Alors, comment est-ce qu'on exerce la politique? C'est là que les choses deviennent plus difficiles. Je pense que les partis politiques exercent une influence beaucoup trop grande sur la conduite des affaires du pays, alors que le plus souvent, ces partis politiques sont très peu représentatifs de l'opinion des Français. Bon, mais en même temps, les Français sont des citoyens, ils votent. Et ils votent pour une offre qui leur est proposée. Et c'est très difficile de proposer une autre offre. Vous voyez, vous me poserez peut-être la question, alors j'anticipe. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat au présidentiel en 2007? Voilà. Alors je réponds, écoutez... Si tant est que j'en ai...
C'était effectivement ma dernière question.
Si j'en ai, je m'en doutais. Si j'en ai effectivement l'ambition, j'en ai pas les moyens. Parce que une campagne présidentielle pour un candidat sérieux, c'est 50 millions d'euros. C'est une très grosse logistique.
Et il faut avoir un appareil derrière.
Et il faut avoir un appareil. Donc, quelque part, l'offre crée l'offre. Et vous vous retrouvez, je me souviens en 2002, d'affiches montrant d'une part Jospin et d'autre part Chirac un peu partout en France, disant ni l'un ni l'autre. Et il se trouve que ça a failli être l'un et l'autre, parce que les deux partis qui avaient les plus de moyens, enfin, pour faire de la promotion de leurs candidats étaient le Parti Socialiste et le RPR de l'époque.
Oui.
Bon, voilà. Donc, c'est extrêmement difficile de faire naître de façon non démagogique une organisation politique ou des candidats. Bon, alors pour autant, comme vous l'avez compris, je ne désespère pas de faire entendre ma voix et aider tous ceux, enfin, qui ont la la même vision de l'avenir dans les mois qui viennent. Mais c'est extrêmement difficile. Si à la suite d'une émission comme celle-ci, effectivement, il y avait des millions de Français
qui nous faire beaucoup d'honneur sur notre auditoire,
qui m'écrivaient en disant, écoutez, on est avec vous, on va s'organiser, enfin, etc. Les choses pourraient changer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je pense que ce sera difficilement le cas demain. Voilà. Donc, vous me disiez, comment est-ce que je me sens dans ce monde? Dans l'ensemble, les parlementaires sont des gens de qualité. Enfin, faut pas dénigrer le personnel politique par trop. Mais le système les rend mauvais. Car c'est un système où ils obéissent au parti, ne serait-ce que pour pouvoir être à nouveau candidat aux prochaines élections. Et comme certains font de la politique un métier, ah ben, ça crée des liens qui sont indéfectibles. Donc c'est le système qui me pose problème, plus que les politiques.
Alors, on parlait d'appareil tout à l'heure, donc ça m'amène à vous poser la question sur votre association L'Ami Public. Vous avez quand même un sacré réseau, là, avec cette association.
Oui, et ce sont des réseaux Internet que je vais développer très fort dans les prochains mois, parce que à défaut d'avoir un appareil politique traditionnel, je vais effectivement essayer de développer au maximum les modes de communication et d'organisation par Internet, le blog, etc. Et d'ores et déjà, enfin, ça a commencé, et c'est extrêmement encourageant et pas cher. Donc là, effectivement, ce sont des neurones qui dialoguent.
Un laboratoire d'idées, c'est ça?
Oui, et puis ce sont chacun avec ses neurones participe effectivement de la réflexion et de l'action. Donc ça, c'est un peu révolutionnaire, mais effectivement, je compte beaucoup sur ces nouvelles technologies pour essayer de suppléer aux déficiences dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des financements et des appareils.
Alors, Christian Blanc, il vous est arrivé une aventure assez exceptionnelle. Le 11 septembre, le fameux 11 septembre, vous vous trouviez, on peut dire que vous êtes peut-être un rescapé. Vous vous trouviez dans une des deux tours, et puis vous sortez d'une de ces deux tours pour aller prendre votre petit déjeuner sur l'esplanade, et c'est à ce moment-là que la première tour explose. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir de ça? C'est purement anecdotique ou c'est quelque chose qui vous a profondément marqué?
Non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça.
Pardonnez-moi.
Mais
c'est comme ça que ça a été relaté dans la presse, en tout cas.
Oui. Alors, j'étais effectivement dans un hôtel qui était dans l'une des deux tours, car j'avais le lendemain matin un rendez-vous à 9h de l'autre côté du boulevard avec le président mondial de Merrill Lynch. J'étais accompagné d'un collaborateur, un Anglais, et nous sommes descendus vers 8h pour prendre un petit déjeuner dans le restaurant qui était entre les deux tours, c'est une protubérance de l'une des tours, avec un dôme tout au-dessus de notre tête. C'était magnifique, le temps était très très pur, le ciel était très bleu, et de là où nous étions, on avait le sentiment que les deux tours se rejoignaient à l'infini dans le ciel. Et bon, nous avons pris le petit déjeuner là, et à 9h-20, j'ai décidé d'aller entamer un cigare au bas de la tour, vu le temps qu'il faisait. Et en me disant, dans ce foutu pays intolérant où l'on ne peut pas fumer le cigare de la journée, je vais tirer quelques bouffées du cigare. mon collaborateur dit qu'il m'accompagnait, ce qui lui a sauvé la vie. Et nous sommes allés marcher un tout petit peu, une dizaine de minutes entre les deux tours. Et vers 9h moins 10, donc, je dis, bon, maintenant on va traverser pour aller au rendez-vous. Donc ça va traverser le boulevard, il y a 50 mètres. Et puis nous sommes rentrés dans une des tours qui était en face, beaucoup plus petite. Là, on était attendus. On a reçu un badge qui a été automatiquement timbré sur l'aire à laquelle on entrait et on prenait l'ascenseur. Et c'est arrivé au 32e étage donc de cette tour que nous avons appris que un avion dit de tourisme avait percuté une tour. Et puis, quelques minutes après, un deuxième avion de tourisme avait percuté une autre tour. Et là, quand j'ai vu l'étage de la deuxième tour qui était dans le même état que ce que j'avais vu quelques minutes avant, c'est-à-dire un étage en flammes avec des flammes d'un rouge noir, enfin carburant quand il brûle ainsi. J'ai compris que ça n'avait rien d'accident et que effectivement c'était un attentat. Et l'hôtel dans lequel nous étions, enfin la partie incrustée dans la tour qui était l'hôtel était déjà en flammes. Et effectivement, j'ai compris qu'à en fait 46 secondes près, nous étions des rescapés. Voilà.
Alors ça permet de relativiser ensuite tout ça.
Oui, enfin ce qui était terrible, c'était de voir ce qui se passait à ce moment-là. Et bon, ce serait trop long ici de l'expliquer, mais c'était une véritable tragédie sans aucune panique. C'est ce qui m'a peut-être le plus marqué.
On vous sent ému quand même à l'évocation de
bah, ce... Écoutez, vous savez, on peut pas être confronté à de telles situations. Sans émotion, plus d'ailleurs l'émotion de la situation que de son propre sort ou de son propre miracle. Voilà, mais donc effectivement, on sait que bah, tout ce qui vient après, c'est en plus, quoi. Hein? Et on a envie d'être utile. On a envie de faire en sorte que, avant de quitter définitivement le monde, il faut faire ce qui doit être fait et ne pas avoir la moindre hésitation. C'est pour ça que vous comprenez qu'une adresse au président de la République, ça ne me paraît pas quelque chose d'absolument extraordinaire.
D'accord. Bon, Christian Blanc, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Alors. Nous allons nous livrer, pour détendre un petit peu l'atmosphère, à un petit jeu de questions-réponses qui permettra de mieux cerner votre personnalité. Vous êtes prêt à jouer le jeu ?
Pourquoi pas ?
Alors, allons-y. Grand large ou sommet vertigineux ?
J'aime bien les sommets. Mmh.
D'accord.
Quant à savoir si après on a le vertige, c'est une autre histoire.
D'accord. Grand cru ou petits vins régionaux ?
Ah, les grands crus. Vous savez, on ne peut pas être bordelais. Ou alors, on décide que le Bordeaux est un petit vin régional.
D'accord. Uniforme ou jeans ?
Ah, le jean.
Oui.
Ouais. Même quand on a été préfet et que donc on a connu la tenue préfectorale.
Alors, limousine avec chauffeur ou petite voiture personnelle ?
Voiture personnelle.
Petite ?
J'en ai pas eu vraiment de petite.
D'accord. Une question qui va rejoindre un petit peu votre origine bordelaise. Cuisine traditionnelle française ou cuisine exotique ?
Cuisine traditionnelle. Mmh.
Appartement citadin ou petite maison à la campagne?
Appartement citadin.
Ah bon?
Oui.
Chopin ou Wagner?
Chopin.
De Vos ou Bigard?
De Vos.
Bien. Ok. Et j'espère que nos auditeurs se sont fait une petite opinion. Alors, pour terminer complètement cette émission, il y a une tradition dans cette émission, justement. C'est la fameuse question à la con. Car après une question comme celle-là, il y a toujours certains mauvais esprits qui disent à l'intervieweur, pourquoi as-tu posé cette question à la con? Eh bien, moi, je la revendique, cette question à la con. La voici. Pensez-vous qu'un jour, nous puissions avoir en France un président de la République issu de la société civile?
Très certainement.
Vous le souhaitez?
Je le souhaite ardemment. Et société civile est peu explicite. Je pense que...
Vous pouvez développer encore, hein, vous avez encore deux petites minutes.
Oui. Je crois que ce dont notre pays a besoin, ce n'est pas simplement d'un président de la République, mais je dirais d'équipes capables de piloter notre pays, qui soient issues de la vraie vie, qui sachent ce que sont les difficultés de la vraie vie, qui ont eu un bulletin de paye, qui ont su ce que c'était d'être au chômage ou qui ont failli l'être, qui connaissent le risque, qui ne sont pas dans une situation où, à partir d'un diplôme à 24 ans, la vie est tracée pour toujours. Ce n'est pas par hasard que je fais partie des 10 députés qui ont voté contre l'introduction du principe de précaution dans la Constitution. Je pense que le risque est inhérent à l'homme et qu'une société sans risque est une société morte. Et donc, j'appelle, puisque vous avez utilisé un terme qui était fort, à avoir des hommes qui ont du poil aux pattes ou des femmes qui ont du courage.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, Christian Blanc. Merci d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, je recevrai André Daguin. Vous devez vous douter pourquoi. Donc voilà, merci, Christian Blanc.